Radio Okapi.
Le journal avec Babel Mpongo.
Okapi.
À la une de ce journal, ces échauffourées qui ont éclaté tôt ce matin à l'université de Kinshasa. À la base, la mort d'un étudiant retrouvé pendu sur le campus. Notez que c'est le deuxième corps sans vie qu'on retrouve ce mois dans cette université. Ce matin, donc, de coups sûrs ont été entendus. Nous allons faire le point sur place avec nos reporters. Deuxième jour ce jeudi à Lubumbashi du Forum international sur l'initiative pour la transparence des industries extractives. Le but est de renforcer les capacités, notamment du gouvernement, de la société civile et des entreprises extractives dans ce domaine. Et puis nous parlerons de cette polémique au nord Katanga, c'est autour des travaux effectués par Safikas. Nombre d'habitants se disent mécontents de la qualité de ces travaux exécutés par cette entreprise et commandée par le gouvernement provincial. Bonjour à tous. La situation a été très tendue ce matin à l'université de Kinshasa. Des manifestations étudiantines avaient éclaté très tôt ce jeudi. À la base, un étudiant retrouvé pendu à un arbre non loin du Home 20. Un important dispositif policier a été déployé sur le site universitaire où des échauffourées ont eu lieu. De nombreux coups de feu ont été entendus. Mais quelle est la situation en ce moment? Nous rejoignons en direct notre reporter Mimi Ngumba Mulongo qui est sur le site universitaire. Bonjour Mimi.
Bonjour Babel, la situation est relativement calme aux environs de l'Unikin et sur les sites universitaires. La police a fini de dégager la route en évacuant tout véhicule brûlé laissé en plein milieu de la chaussée vers l'intendance. On assiste à l'instant à une opération de ratissage menée par la police sous la supervision du général Oleko. Elle vise à traquer les jeunes gens du quartier Mbanzalemba. Ce dernier en profitait en fait du soulèvement des étudiants pour piller et commettre autres bavures, notamment en saccageant la centrale de fourniture électrique et un conteneur d'ordinateurs octroyé récemment à l'Unikin. Et d'ailleurs, 17 de ces ordinateurs viennent d'être récupérés par la police. Et donc, un appel à la reprise des activités est lancé par le bourgmestre de la commune de Lembam et l'inspecteur provincial de la police qui rassure que la situation est sous contrôle.
Merci Mimi Ngumba Mulongo. Mais alors, comment en est-on arrivé à cette situation à l'université de Kinshasa? Réponse avec cette fois-ci notre reporter Jacques-Yves Molima qui lui aussi se trouve sur les campus de l'université de Kinshasa.
Oui, Babel, tout est parti de la mort de l'étudiant fiston de G1 en psychologie. Ce dernier a été retrouvé pendu sur un arbre par certains étudiants entre le home 10 et 20 aux petites heures du matin. Après cette découverte, les étudiants se sont soulevés, d'autant plus qu'il y a une semaine, un autre étudiant a été trouvé mort presque au même endroit. Ils se sont pris aux habitations des professeurs, notamment la maison directeur. Son véhicule a été saccagé. D'autres installations aussi ont été touchées dans les lots. On retrouve des postes de police, la résidence du Premier ministre Adolphe Mouzito en construction. Ajouté à cela, les quelques 6 véhicules brûlés que nous avons vus. Et puis, dans un premier temps, sachez que le corps de l'étudiant tué a été acheminé à la morgue par la police. Une autre personne grièvement blessée que nous avons vue a été acheminée vers un autre centre hospitalier, toujours par la police. Par ailleurs, d'autres sources font état d'une fille qui aurait été touchée par une balle perdue. Elle serait aussi acheminée dans un centre non loin de l'Unikin. Mais les étudiants, eux, parlent de 3 morts au total, mais difficile de vérifier pour l'instant. Signalons enfin qu'une réunion de sécurité est prévue dans un instant sur le site universitaire en vue de trouver des voies et moyens pour tirer au clair la situation et sécuriser le site. Depuis l'Unikin, Jacques-Yves Molima, Aouta, Radio Okapi.
Merci Jacques-Yves Molima. Radio Okapi continue bien entendu à suivre cette situation pour vous. Au Kasaï oriental, l'université de Mbujimayi est fermée jusqu'à nouvel ordre. Il est également interdit tout attroupement des étudiants de cette institution universitaire à n'importe quel endroit de la ville. Ce sont là quelques-unes des mesures prises par le Conseil provincial de sécurité tenu hier dans cette ville à la suite des manifestations des étudiants de l'université de Mbujimayi, manifestations qui se sont soldées par la mort d'un bébé de 5 mois atteint par une balle perdue. La mère du bébé s'en est sortie, elle, avec un bras fracassé par la même balle. Pendant toute la durée de la fermeture, des enquêtes sont ouvertes pour établir les responsabilités. Billy Yvan Lutumba nous apporte d'autres détails.
Outre le bébé tué et sa maman blessée, la police fait également état des 3 policiers blessés, un commissariat de police et une moto incendiée. Les étudiants, pour leur part, parle de 4 étudiants arrêtés et 4 autres blessés. Au regard de tout ceci, le Conseil provincial de sécurité s'engage à mettre tous les présumés coupables des actes de vandalisme à la disposition de la justice. Il émet également le vœu de voir un procès public se tenir sur le campus de Chicama en vue de décourager toute récidive. Selon le ministre provincial de l'Intérieur, par cette fermeture, il est sous-entendu que les cours ne seront pas dispensés même en dehors du campus. Exception faite pour les étudiants en stage dans diverses structures. Pour sa part, l'inspecteur provincial de la police ad intérim invite les étudiants ainsi que leurs parents à veiller au respect strict de ces mesures. Rappelons que lundi dernier, les étudiants ont manifesté en vue d'exiger du gouvernement provincial le redémarrage des travaux afin d'empêcher la progression d'un ravin qui menace d'engloutir leur institution. Billy Ivan Lutumba, Mbujimayi, Radio Okapi.
La situation des Congolais expulsés d'Angola, nous en avons parlé encore ce matin sur nos antennes, mais intéressons-nous cette fois à cette série de questions que soulève ce problème, à savoir, qui sont finalement ces Congolais qu'on chasse en permanence de l'Angola, que leur reproche-t-on exactement, et puis à ce jour, y a-t-il vraiment une solution à ce phénomène qui dure depuis quelques décennies maintenant? Tentative de réponse avec Dona Madimba qui revient de Kamako au Kasaï occidental, c'est à la frontière avec l'Angola.
Tous les âges sont concernés, les genres et les tribus de la RDC aussi, mais selon les services de migration, les Congolais expulsés d'Angola sont pour la plupart des irréguliers ou des gens clandestinement entrés en Angola. C'est vrai que certains expulsés nous ont raconté qu'ils n'étaient pas irréguliers et qu'ils ont été arbitrairement expulsés, mais toujours est-il qu'aucun de ces expulsés n'a été appréhendé dans les régions du centre de l'Angola, mais presque toujours dans les sites d'extraction de diamants des provinces frontalières avec la RDC. On leur reproche de se livrer systématiquement à l'exploitation illégale du diamant dans les sites désormais appartenant à des privés. Des témoignages expliquent d'ailleurs que ce seraient ces privés qui, ayant recruté les forces angolaises pour sécuriser leurs carrés miniers respectifs, procèdent aujourd'hui à la chasse de tous les envahisseurs trouvés sur ces sites. Pour ceux qui aident la solution la plus indiquée pour arrêter les expulsions et probablement toute la brutalité qui les accompagne, de nombreuses suggestions sont à ce jour évoquées. Il est très souvent question des négociations diplomatiques, mais aussi d'ouverture officielle des frontières entre les deux pays, partout où ces problèmes d'expulsion se posent.
C'est le deuxième jour aujourd'hui à Lubumbashi du Forum international sur l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITE. Ce forum s'est fixé comme objectif, entre autres, le renforcement des capacités de différentes composantes, à savoir le gouvernement, la société civile et les entreprises extractives. Autre objectif, la vulgarisation du concept ITE auprès des différents acteurs. Outre les délégations nationales, ce forum accueille plusieurs autres délégations internationales, avec à leur tête le président international de l'ITIE. D'autres précisions avec Jean Gandou.
Au cours de la première journée, les gouverneurs des provinces du Katanga, du Nord et Sud Kivu, du Bas-Congo et de la province orientale ont mis en exergue les activités minières de leurs provinces respectives. Tous ont indiqué avoir mobilisé à la hausse les recettes de l'État. André Kimbuta, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, a donné l'expérience de la Direction générale de recettes de Kinshasa de GRK, et dont la plupart des provinces se sont inspirées dans la mobilisation de recettes. Toutefois, il a stigmatisé l'attitude du gouvernement central qui tendait à l'annulation de certains édits pris dans le but de permettre aux provinces d'avoir les moyens de leur politique. Quant à Moïse Katumbi, la rigueur dans l'exportation de minerais a permis à la province du Katanga de multiplier les recettes. Les moyens réunis ont favorisé au gouvernement provincial de réaliser certains travaux d'intérêt communautaire. Il est revenu aussi sur certaines ratées consécutives au non-respect par le gouvernement central de la Constitution. Moïse Katumbi.
La Constitution est violée par le gouvernement central parce qu'on ne respecte pas la retenue à la source. On ne respecte pas la rétrocession et on ne respecte rien du tout. Au contraire, on demande au gouverneur de travailler.
Le ministre de Plan, Olivier Kamitato, a indiqué pour sa part que de ses assises, le pays va tirer un grand bénéfice pour son développement. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Nous restons au Katanga, mais nous sommes cette fois dans sa partie nord. La pluie qui est tombée mardi dernier sur la ville de Kalemi a causé d'importants dégâts matériels. L'artère principale en pleine réhabilitation par l'entreprise Safricas a été affectée aussi. Du coup, nombre d'habitants se disent mécontents de la qualité des travaux exécutés par cette entreprise privée pour le compte du gouvernement provincial. Par la bouche du gouverneur, le gouvernement provincial a lui aussi élevé la voix pour demander à Safricas de rectifier le tir. Quant à l'entreprise Safricas critiquée dans cette affaire, elle exhorte la population à la patience avant de porter un jugement définitif sur ses travaux. Safricas considère plutôt l'ensablement lié aux constructions sur les flancs des collines comme un grand obstacle à la réhabilitation de la ville. Ceci qu'explique l'ingénieur Jules Courma de Safricas au micro d'Expedi Mwamba.
Vous savez, les canalisations, c'est juste pour prendre de l'eau. Et tant que l'eau passe et qu'il n'y a pas débordement, cela me suffit pour la largeur de mes caniveaux. Et il y a même d'autres qui ont dit que les tronçons des murs sont carrément tombés.
Ouais.
Donc, c'est tombé pourquoi? C'est encore un chantier. À ces endroits-là, on n'a pas encore remblé ni compacté. Et bon, qu'on laisse travailler, on verra les résultats à la fin.
Au Kasaï occidental, les participants à l'atelier initié par la MONUSCO sur le plan stratégique de la prévention, de la gestion de la réglementation des conflits ont décidé de transformer les conflits identifiés dans cette province en activités génératrices de revenus. C'est le point essentiel du document élaboré à ce sujet, document adopté hier à Kananga. Au micro de Sadala Chabani, Anaclet Chimbalanga, coordonnateur provincial de l'unité de médiation des conflits au Kasaï occidental, explique comment ces stratégies arrêtées vont être concrètement appliquées sur le terrain.
Là où il y a eu des conflits comme à Machala, comme à Tenda, à la frontière de Kasaï, comme à Dekessé, cela nécessite absolument de transformer ces conflits en bonne activité génératrice de revenus. À Machala, par exemple, les gens sont battus pour les terres. Maintenant, il faut transformer ces lieux pour lesquels on s'est battu en lieu d'activité pour les différentes parties qui étaient en conflit, de mettre à profit les espaces conflictuels pour l'exploitation commune. Pour le mine, il faut réglementer, il y a les ressources, il faut faciliter la négoce, il n'y a pas l'exclusion. Il faut éviter les conflits du type autochtone et halogène. Pour les conflits coutumiers, nous nous référons à la Constitution qui reconnaît le pouvoir coutumier et on demande aux chefs coutumiers d'œuvrer pour la paix et l'unité nationale. Ils ne doivent pas se diviser parce que si eux ils sont divisés, le reste de la population c'est la mort. Ils doivent s'occuper de l'encadrement de la population de manière neutre.
C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.